Chers auditeurs, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Christine, Christine Sourgens, notre chroniqueuse, qui aujourd'hui est en vedette, parce qu'elle va parler de son dernier livre, qui vient de sortir.
Aux éditions Bolène, Les bienfaits du beau.
Les bienfaits du beau. Et nous allons également avoir avec nous Bertrand de Sainte-Marie, qui est conservateur au musée de la Marine et créateur d'une commissaire, comme on dit, d'une exposition qui s'appelle « Quatre siècles, la Marine et les peintres, quatre siècles d'art et de pouvoir ». Donc en fait, le thème général de cette émission, ce sera « Les utilités du beau ». Christine, alors, ce livre, c'est le troisième.
Oui.
Et il vient après...
Après les deux premiers.
Voilà.
Le tout premier, c'était Anatomie de la beauté, toujours chez Bolène, hein, comme tous les autres. L'idée, c'est que cette notion de beauté a été extrêmement déconstruite, surtout dans le monde artistique, et donc j'ai voulu lui redonner consistance sans la figer, sans la scléroser. Donc ça passait par la réhabilitation, pour une part, de l'objectivité du beau, tout en tenant compte de la part de subjectivité qui est constatée par les modernes depuis Baumgarten, le 18e siècle.
Bon. Totalement liés.
Mais aujourd'hui, les hypermodernes que nous sommes ont tendance à exagérer cette subjectivité du beau, parfois jusqu'à l'absurde, et à relativiser le beau à outrance. Or, je montrais dans Anatomie de la beauté que le beau n'est pas relatif au sens d'arbitraire, d'aléatoire, mais qu'il est contextuel. Vous connaissez la petite historiette, vous pouvez trouver la pluie laide à Londres, mais belle en plein milieu du Sahara. Bon, ça dépend du contexte. Et donc, puisque l'intersubjectivité existe, la beauté n'est peut-être pas universelle d'emblée, mais elle est au moins universalisable. Et s'il y a une part de subjectivité, il n'est pas absurde de réfléchir à des constantes de beauté. Et dans Anatomie, je montrais qu'on pouvait en trouver 6, et ce livre se terminait sur l'apport d'Étienne Gilson, qui est un philosophe du début du XXe siècle, qui dit que toute œuvre belle est un être poétique. C'est-à-dire qu'il y a un vivant du beau, d'où l'idée d'Anatomie. Alors, il y a le deuxième livre qui a suivi, qui est Géographie de la beauté. Là, il s'agissait d'échapper à ce manichéisme qui oppose beau et laid comme bien et mal, et puis aussi à cette espèce d'échelle qu'on a souvent dans la tête, où bien sûr il y a le laid tout en bas, et puis après il y a peut-être le kitsch, et puis après il y a le joli, qui est charmant et décoratif, puis vous avez le beau, et au-dessus vous avez le sublime. Et le résultat des cours, c'est que le beau se trouve écrasé entre le joli, charmant et décoratif qui le contamine par en dessous, et le sublime qui le dépasserait et qui l'écrase totalement. Donc pour échapper, si vous voulez, à cette hiérarchie mortifère, il faut déployer une géographie. Il faut montrer l'étendue du beau avec 10 terroirs principaux. Alors il y a l'harmonieux, le joli, le sublime, l'étrange, etc. Où le beau peut s'épanouir ou pas. Parce qu'une œuvre, elle peut être simplement jolie. Mais il y a des œuvres qui sont jolies et belles. Bon. Et ces différents terroirs, bien sûr, peuvent souvent se mélanger. Hein, ça, c'est de la bonne cuisine esthétique.
Cette anatomie et cette géographie du beau produisent aussi des bienfaits. Mm-hmm. Et c'est un peu le sujet que vous traitez aujourd'hui.
Mais oui.
Serait-il utile ?
Oui, alors là, les relations de l'utile et du beau sont complexes et ça valait la peine de les retracer, puisque au fond, la beauté, elle remonte aux pierres taillées préhistoriques. Et pour le professeur de Lumley, par exemple, un outil de silex comme un biface, qui est parfaitement symétrique, choisi dans une belle couleur de silex, il n'est pas plus fonctionnel pour ça. Il dit qu'il s'agit d'une recherche de beauté. Donc on voit que le beau naît à côté de l'utile et il est nullement gêné par lui. Dans l'Antiquité grecque, le beau voisine souvent avec le bien, et voire même se confond avec lui. Vous savez, il y a cette fameuse expression « kalos agathos ». Kalos, c'est le bon, et agathos, qui a donné Agathe, c'est le bien, le bon. Et Socrate affirme qu'une cuillère en bois, si elle convient mieux pour la cuisine, eh bien elle sera plus belle qu'une cuillère en or.
Donc la fonctionnalité,
voilà,
c'est la beauté.
C'est le premier, l'utile serait premier. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que les artistes antiques sont souvent confondus avec des artisans.
Et ça continue au Moyen-Âge.
Bien sûr, les artistes relevaient des arts numériques, des arts mécaniques, lapsus, ceux où le corps, la main prédomine, et la recherche de l'utile et du profit était un signe de rupture, d'infériorité sociale. Et c'est seulement à partir de la Renaissance, où Léonard de Vinci et ses confrères vont lutter pour obtenir le statut d'art libéral. D'où une alliance entre les artistes et les lettrés. Par exemple, c'est Dante, l'auteur de la Divine Comédie, qui invente le mot « artiste ». Et les artistes occidentaux seront les seuls sur la planète, si vous voulez, à bénéficier d'une promotion sociale qui va souvent jusqu'à la noblesse. Titien finira noble, Velázquez aussi, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est représenté dans les Ménines avec la croix rouge de l'ordre de Santiago, mais aussi Lebrun, Mignard, Coypel. Alors pas tous, mais quand même un certain nombre. Et néanmoins, les artistes continuent d'œuvrer utile. En particulier sous Louis XV, c'est la période rocaille, elle repose sur une osmose des arts majeurs et décoratifs. Et de nos jours, même un abstrait comme Georges Mathieu, eh bien, il signera des affiches d'Air France ou une pièce de 10 francs.
Mais cette intrication art utile génère une confusion, peut-être, à notre époque en tout cas.
Oui.
Du mépris même pour les arts dits mineurs et puis la rétrogradation de l'art à l'artisanat par l'art contemporain.
Alors ça sera plus tard.
Ouais.
Mais il y a quelque chose qui, finalement, court partout. Par exemple, Gainsbourg était coutumier du fait, puisqu'il avait abandonné la peinture pour la chanson. Et pour lui, il en était tout mari, parce qu'il regrettait ce qu'il considère comme un art majeur, la peinture. Il disait l'art majeur, vous comprenez, ça requiert une initiation, sous-entendu des études complexes, tandis que l'art mineur est à la portée de tous. Et là, vous voyez tout de suite, en fait, il y a une confusion entre art majeur et art savant. Mmh. Or, un art mineur est souvent un art très savant. Ils font souvent des tours de main extrêmement complexes et difficiles à acquérir. La minorité, quand on dit art mineur, ça, c'est simplement que ce sont des arts qui ne sont pas autosuffisants. C'est leur différence et c'est leur gloire aussi. Marc Fumaroli décrivait ainsi les arts. Alors, c'est les arts de la table, les arts des tissus, les boiseries, du mobilier, de la serrure. Il disait ce sont des instrumentistes d'un orchestre interprétant une symphonie de l'art de vivre, tant social qu'intime. Une belle définition, mais on comprend très bien que dans un orchestre, il ne faut pas que le piccolo et la basse jouent chacun pour soi. Mmh. Il ne faut pas qu'ils soient... Ce ne sont pas des solistes, si vous voulez, les arts dits mineurs, à la différence des arts majeurs. Les arts mineurs doivent s'accorder à un ensemble, alors qu'un tableau, même s'il a un rapport avec son environnement, retrouve une liberté à l'intérieur du cadre. C'est la même chose que la sculpture sur socle, etc. C'est pour ça que Malraux parlait de métamorphose. Les œuvres, après, sont autonomes et elles continuent de vivre leur vie indépendamment de leur contexte de création d'origine.
Mais au XIXe siècle, on commence à... disons, à penser à l'art pour l'art, à une sorte d'inutilité de l'art, une gratuité
absolue. Ah, mais c'est pire
absolue.
Que ça. On assiste à une véritable rébellion contre l'utile. Mm. Et en particulier, c'est Théophile Gautier qui va brandir ce drapeau. Je vais vous citer une phrase de Théophile Gautier, vous allez tout de suite comprendre. « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. » L'endroit le plus utile d'une maison, ce sont les latrines. Fin de citation. Évidemment, ça, c'est l'argument qui tue.
Hein, incroyable. Bon.
Mais il n'est pas tout seul. Schopenhauer, par exemple, est aussi radical. Un homme qui entreprend de vivre de la faveur des muses m'apparaît, jusqu'à un certain point, comme une fille qui vit de ses charmes. Vous voyez, elle va. Or, les artistes, on l'a vu, peuvent pratiquer les deux, art majeur, art mineur.
Mais pourquoi une rébellion aussi radicale? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, avec les temps modernes, monte une mentalité rationaliste. Alors, bourgeoise diront certains, capitaliste diront les autres. Mais en tout cas, cette mentalité postule que l'intérêt ou l'utilité sont les finalités ultimes de l'existence. Alors, c'est une vision qui est née en Occident, mais qui va devenir un principe universel, ce qui prouve d'ailleurs que... il y avait aussi dans les autres cultures un certain nombre de ferments qui étaient propres à l'accueillir quand même. Bon. Or, depuis, les travaux de zoologistes comme Portman ont découvert dans la nature l'existence de formes non nécessaires d'un point de vue utilitaire et fonctionnel. Par exemple, les parades animales, lorsque le pan fait la roue. Bon, c'est une manifestation de soi éclatante, qui comporte en plus, c'est vrai, une signalétique qui est utile à la reproduction, donc à la survie. Mais l'important est de comprendre que cette parade animale aurait pu être fonctionnelle sans un tel panache, sans atteindre une telle beauté. Et d'ailleurs, Hannah Arendt faisait un petit peu un parallèle avec la beauté des cathédrales, parce qu'elle disait finalement, pour abriter des cérémonies, ça pouvait se faire dans quelques indescriptibles bâtisses, disait-elle. Eh bien non, on n'a pas choisi les indescriptibles bâtisses, on a les cathédrales qui choisissent la beauté. Alors, vous savez, Aude, qu'une des réfutations du beau repose sur le fait qu'il ne serait qu'apparence, et les apparences sont trompeuses. C'est souvent ce qu'on dit, mais c'est faux en fait. Les apparences, elles ne sont pas toujours trompeuses, elles peuvent l'être. Et là encore, il y a une confusion entre apparence et apparaître. C'est-à-dire que la beauté parie que les phénomènes offrent eux-mêmes un accès à ce qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'en Occident, la beauté est de l'ordre de l'apparaître et pas des apparences. C'est une métaphysique différente, par exemple, de celle du bouddhisme, où tout est illusion, évidemment, ça va conditionner le beau autrement. Donc, on peut dire que le non-fonctionnel est premier. Il y a des philosophes comme Jacques de Witte, par exemple, qui ont travaillé sur cette notion. Et ils montrent que tout commence par une gratuité initiale, un don, même si cette donnée première pourra ensuite être restreinte par le fonctionnel et accaparée par l'utile. Par exemple, l'industrie pétrolière, elle suppose le gisement de pétrole qu'elle n'a pas créé, mais qu'elle va exploiter. Van Gogh ne vit pas de sa peinture, mais après, vous aurez les faussaires et les spéculateurs qui, eux, vont faire du business. Donc, ils parasitent un donné initial. Et De Witte écrit que les comportements sociaux de type rationnel, reposant sur le calcul, l'intérêt, le profit, ne pourraient tout simplement pas exister sans une donation première. Vous voyez que la réflexion sur le beau et l'utile, ça peut nous aider à sortir d'un aveuglement sur l'utilitaire, sur le rentable, qui seraient les principes recteurs et nourriciers du monde, alors qu'ils sont beaucoup plus mortifères qu'on le dit.
Mais alors, les conséquences sont que le beau n'a pas à être inféodé à l'utile.
Bah oui, un objet peut s'acquitter d'une fonction, c'est vrai ce que vous venez de dire, mais un objet peut s'acquitter d'une fonction, il n'est pas impur non plus pour autant. Il y a un exemple que tout le monde connaît, c'est l'enseigne de Gersin, qui est peinte en 1720 par Watteau, qui aujourd'hui est un tableau à Berlin, qui est à Berlin. Bah, en fait, c'est un tableau publicitaire. Watteau l'a peint pour la boutique d'un marchand mercier, mais c'est aussi un chef-d'œuvre de mélancolie souriante. Vous savez, l'effigie du roi soleil qui remballait à gauche, la France fastueuse s'éclipse. Et puis d'autre côté, vous avez les belles dames qui sont au comptoir, la France galante se lève, et tout ça est transcendé par le pinceau de Watteau. Et donc la fonction d'enseigne n'est qu'un prétexte pour nous faire vivre un changement d'époque. Donc on peut tenir les deux bouts de l'intrication de l'utile et du beau grâce à une sorte de règle d'or que j'ai trouvée chez Victor Cousin, qui était un universitaire du XIXe siècle. Il disait « ce qui est utile n'est pas toujours beau, ce qui est beau n'est pas toujours utile, mais ce qui est à la fois utile et beau est beau par un autre endroit que son utilité. » C'est pourquoi la sagesse populaire joint l'utile à l'agréable et non pas au beau. Il y a une spécificité de la beauté.
Mais la beauté de l'objet désigné...
Designé.
est-elle du même ordre que la beauté artistique?
Alors là, justement, il faudrait reprendre les 6 constantes de beauté que j'avais mis à jour dans le premier livre sur anatomie. Les 3 premières, le design est parfaitement capable de les remplir, c'est-à-dire ordonner la diversité, harmoniser les tensions, surprendre. Il y a beaucoup d'astuces dans ces objets pour justement accrocher le consommateur. Ce qui va être plus problématique, ce sont les constantes suivantes, c'est-à-dire la présence, vous savez, cette espèce d'aura qui entoure un objet, et surtout la profondeur de sens. Vous voyez, la beauté d'une œuvre d'art, elle murmure « contemple-moi, deviens ce que tu regardes ». Le paquet de chips, c'est « croque-moi, achète-moi, lâche-toi, cède aux impulsions ». Le design, c'est « dépense et jouis ». Donc la fluidité des formes designées, aussi cool et attractive soit-elle, elle ne procure pas cette expérience existentielle qui fait que les œuvres d'art sont capables de nous transfigurer, de nous bonifier. La beauté, J'avais réussi, non pas à une définition, je me méfie des définitions avec un phénomène qui est vivant, comme la beauté, il faut mieux parler de caractérisation, parce que dans définir, il y a finir. Donc la beauté, c'est la révélation d'un rapport singulier au monde et à l'être. Donc la beauté fonctionnelle, qui est celle du design, elle existe, mais elle est restreinte. Elle est restreinte parce qu'elle est contrainte par la fonction utilitaire qui est prégnante. Et donc ne sont pas présentes ensemble les six constantes de beauté. C'est une beauté incomplète, mais pourquoi pas ? Après tout, c'est possible.
Alors parlons d'expérience artistique.
Alors là, l'expérience artistique, là on va rentrer, si vous voulez, dans les bienfaits du beau pour la personne du regardeur. Là, on va changer d'échelle.
On va prendre ce terme, du contemplateur.
Du contemplateur, si vous voulez. Il y a un premier bienfait qui est très en vogue aujourd'hui, alors ça vient de la psychanalyse, c'est le fameux refoulement. Donc, la société nous oblige à censurer, à réprimer des pulsions. Donc, le beau serait une ruse de la civilisation qui permet d'assouvir tout ce qu'elle nous interdit de satisfaire pour de vrai. Par exemple, vous êtes énervé, vous avez envie de tout casser, eh bien vous allez au Louvre devant la mort de Sardanapale de Delacroix et vous êtes devant face à un potentat oriental qui a décidé de mourir en détruisant tout ce qui l'entoure, les femmes, les enfants, les serviteurs, enfin tout y passe. Donc c'est un carnage, mais en peinture, et c'est un chef-d'œuvre. Bon. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on passe subrepticement, très rapidement, du refoulement au défoulement le plus déluré. Bon. Freud, dans son ouvrage sur Vinci, affinait ses processus psychologiques avec la sublimation. Et il montrait que plus était grand le refoulement du futur artiste, plus sa capacité à sublimer s'accroît, alors en curiosité intellectuelle, et puis devient un génie. Bon. D'accord, ça a marché avec Vinci, mais une question qu'on peut poser, c'est pourquoi, en leur écrasante majorité, les grands refoulés ne deviennent pas tous des génies. Ça serait quand même intéressant. Bon. Donc la sublimation, initialement, c'est une opération chimique. Ça permet de passer de l'état solide à l'état gazeux. Et donc, par analogie, la beauté transformerait notre passif en élévation spirituelle. Mais ce phénomène de sublimation psychologique, il existe. Mais il n'est pas automatique, parce que l'être humain, ce n'est pas une équation chimique. Le problème, c'est que le développement personnel, qui est très à la mode aujourd'hui, s'est emparé de ces notions et finalement, il réduit la beauté à une forme de narcissisme. On lit dans ses ouvrages, par exemple, « C'est toujours de moi dont la beauté me parle ». Donc, c'est une conception, là, purement subjective du beau. Et puis, ça finit par décevoir. On lit aussi dans le même ouvrage « La beauté ne résout rien, c'est juste une pause dans un malaise ». Alors là, on se dit quand même « Piètre beauté ». Quand le beau est revu et corrigé par le développement personnel.
Oui. Mais il y a un autre bienfait très en vogue aussi, dont vous allez parler, je pense, la catharsis.
Oui, alors là...
Oui, auréolé du prestige d'Aristote.
Ah oui, là c'est quand même c'est très chic, parce qu'il y a le grand philosophe Aristote derrière, qui effectivement s'était aperçu que la violence dans les représentations théâtrales aurait permis aux spectateurs d'Athènes de se purger de l'excès des passions pour revenir apaisés dans la cité. Sauf qu'Aristote avait une théorie des humeurs. L'idée, c'était que la tragédie convoque la crainte qui refroidit et la pitié qui échauffe, et donc ça parvient à un rééquilibrage, d'où le soulagement de la catharsis. Mais dans le texte d'Aristote, la purgation des passions porte uniquement sur la pitié et la crainte, pas toutes les passions. Or, aujourd'hui, la catharsis justifie les n'importe quoi pour Luxamous. Et surtout, il s'agit de théâtre, pour Aristote, donc de fiction. Alors que dans l'art très très contemporain, que nous appelons lassé pour bien montrer que c'est quelque chose de très particulier, il y a une prédation du réel, voire des corps. Vous savez que dans les performances, par exemple, il peut y avoir des scarifications et ce n'est pas du maquillage, le sang coule réellement pour de vrai. Donc là, on voit que l'art dit contemporain, officiel, financier, etc., détourne et falsifie la catharsis. Parce qu'en fait, si l'art sait transférer ses émotions aux autres, certes, mais il faut le faire sans leur nuire. Or, depuis l'art très contemporain, c'est plus vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup d'installations où il y a un petit panneau, on dit « attention, déconseillé aux personnes sensibles ». Donc, il y a quand même un danger.
Alors, il y avait eu même des œuvres où il y a eu mort d'homme.
Il y a eu des morts d'hommes ou des gens qui se sont blessés parce qu'ils sont tombés dans l'œuvre. Enfin bon, Kapoor, par exemple. Alors, la découverte des neurones miroirs peut expliquer le phénomène de catharsis, hein, c'est quand les neurones du regardeur se synchronisent avec celles de l'observé, mais c'est un mécanisme qui a des limites, parce que ça peut s'inverser en une sorte d'incitation à commettre un délit, ou pire. Donc l'oukase actuel, tout est permis en art, tout est bon puisque tout est sublimation et catharsis, c'est à manier avec, avec précaution. En fait, c'est devenu une pensée magique qui sert à légitimer les surenchères de l'art très très contemporain.
Mais aujourd'hui, il y a d'autres bienfaits du beau dans toutes les thérapies.
Alors là, si vous faites allusion à l'art-thérapie. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que le pouvoir soignant de l'art-thérapie ne repose pas sur la seule beauté. C'est-à-dire le fait de quitter sa chambre d'hôpital, par exemple, pour aller découvrir un atelier, une salle de répétition, tout ça, ça vous dépayse. Et puis, il y a aussi la relation interpersonnelle avec le thérapeute ou les autres pratiquants. Ça réconforte, indépendamment de l'excellence artistique atteinte ou pas lors de la séance d'art-thérapie. En fait, là, ce sont les liens sociaux qui soignent. Mais on peut être sûr que la beauté intervient avec certitude quand l'art-thérapeute est, par exemple, Claire Hopper, qui est une violoncelliste et concertiste renommée, et elle est également musicothérapeute. Alors elle préfère dire musicienne soignante. Et là, la qualité est un point de visée, si vous voulez. Et elle a décrit toutes ses expériences dans un livre qui s'appelle « Le pansement Schubert ». Et on voit, son violoncelle qui sort les grabataires de leur léthargie. On voit même les gens à la dernière extrémité, à moitié inconscient. On voit que la respiration se modifie et s'adapte, s'apaise avec le rythme du violoncelle. Enfin, c'est vraiment très, très touchant. Et ces bienfaits ont été mesurés par le corps médical. La diminution de la douleur est évaluée de 10 à 50% avec un effet positif de 90% sur l'anxiété, et l'embellie psychologique atteint 100% pour les soignants. Parce qu'eux aussi, ils sont impactés, les pauvres, hein, par les drames qu'ils soignent. Donc, en fait, la joie du beau artistique, elle est unifiante, parce qu'elle est à la fois perceptive, elle passe par les sens, hein, le corps est concerné, la vue, l'ouïe, etc. Mais c'est aussi l'émotionnel est concerné. Le cognitif est concerné, la mémoire, l'imagination, la raison y en part. Donc la beauté va embrasser tous les pans de la personne et on peut parler d'expériences existentielles qui nous ressaisit en un tout signifiant et qui en plus déborde de l'instant présent avec la musique. L'expérience musicale, c'est vrai, on a l'impression d'être dans une forme d'éternité dans les œuvres musicales.
Mais il paraît que ça marche même avec les animaux.
Ah oui, alors depuis longtemps, on savait que la musique classique... ça calme les bovins et c'est bon pour le rendement des vaches laitières. Mais récemment, il y a un guitariste folk qui s'appelle Plume qui a proposé des prestations gratuites alors dans les prés, dans les écuries, dans les zoos qui sont demandeurs. Et visiblement, il y a certaines espèces, en particulier les lémuriens, qui sont très amateurs. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, Orphée charmant les animaux, c'est pas qu'un mythe grec. Alors, il y a un autre bienfait qui est peut-être encore plus capital, si vous voulez, pour nos contemporains, c'est que la beauté développe notre attention. C'est si crucial que beaucoup de tableaux en font leur sujet exclusif. Par exemple, la Dentelière de Vermeer. Il y a beaucoup de joueurs de cartes aussi dans beaucoup de tableaux qui mettent en scène des regards. Enfin bon. Donc, on en a déjà parlé sur cette antenne, je ne vais pas y revenir, sauf pour rappeler que jusqu'ici, le grand art séculaire autorisait à déployer son attention dans une relative confiance. Et depuis l'émergence de l'art très très contemporain, post-Duchampien, la méfiance est salutaire parce que l'art post-Duchampien a fait de la transgression son fonds de commerce. Et là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si l'art sait transférer ses émotions aux autres, c'est très bien, mais il ne faut pas leur nuire. Et avec l'art contemporain, justement, le regardeur, comme là on le dit souvent dans l'art contemporain, doit se méfier.
Il est fait pour être piégé.
Il est fait pour être piégé, absolument. Donc si on revient à ce bienfait qu'est le renversement de l'attention, il est évident qu'on ne juge pas d'un paysage comme d'un portrait, d'une fête galante comme d'un tableau de bataille. Il faut trouver la famille de l'œuvre. Donc l'œil accomplit des allers-retours avec un tableau voisin ou avec les œuvres mémorisées, parce qu'on a tous un petit musée dans la tête. Hein, bon. Et ça prend du temps. Hein. La beauté, c'est pas liker dans la seconde. L'évaluation esthétique, c'est pas le réflexe émotif du j'aime pas. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un parallèle avec la création du monde au début de la Bible. Vous savez, la Bible répète, Dieu vit que cela était bon. Et en fait, on pourrait traduire par beau, parce que Tov, c'est un mot qui est bon, beau, c'est très proche. Bon. Et en fait, pour faire exister, il est essentiel d'être attentif. Et pour exister vraiment, il est essentiel d'être considéré par un autre. Donc l'attention, c'est vraiment quelque chose de très, très important qui est malmené en ce moment, évidemment, par tous les écrans, par tous les écrans numériques qui fragmentent, qui déstabilisent l'attention, qui captivent notre attention dans l'addiction aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Et surtout, les écrans nous infantilisent parce qu'on est passif et captif. Alors que dans l'attention au beau, on est actif, on est un libre acteur.
Mais vous donnez des exemples d'exercices
d'attention.
Ouais.
Alors, vous pouvez, par exemple, quand vous regardez des œuvres, essayer de traquer les détails significatifs. Vous prenez le déjeuner sur l'herbe de Manet, que tout le monde connaît. Eh ben, il y a un petit bouvreuil tout à fait en haut, il y a un petit oiseau rouge tout à fait en haut qui est perdu dans le feuillage. Et puis en bas à gauche, il y a une grenouille. Ah, on peut se demander pourquoi il y a un petit oiseau et une grenouille.
Nécessité de
couleur. Ah bah oui, mais bon, il y a plein de raisons. Bon. Vous avez aussi certaines anomalies qui sont peut-être le sésame de l'œuvre. Je pense à l'atelier aux mimosas de Bonnard, qui est un des derniers tableaux de Bonnard. Donc on voit c'est une verrière avec un mimosa qui explose de jaune solaire derrière. Et quand vous regardez bien, il y a un œil dans le mimosa. C'est pas l'œil était dans le mimosa et regardait Bonnard. Et c'est un tableau aussi, on voit la tête de sa défunte épouse qui apparaît. Donc c'est quand même très curieux comme détail. Et puis donc, parfois donc, il faut que l'attention fonce comme un rapace sur le détail. Et puis parfois non, elle peut devenir flottante. Il y a des formes paradoxales d'attention qui sont requises par la quête du beau. En fait, parfois, pour regarder, il ne faut pas trop regarder. Pour mieux voir, il ne faut pas trop regarder. Alors, par exemple, la musique aux Tuileries de Manet, il faut, si vous avez des personnages qui sont endimanchés, qui sont perdus dans les arbres des Tuileries, eh bien, il faut s'immerger dans une impression d'ensemble, parce que Manet a un bruissement de forme, une simultanéité de sensations qui donne cette impression de rumeur, de brouhaha, de fonfon. Il faut mettre en phase notre attention avec justement l'inattention légère des personnages et la musique qui sont peints. Et c'est ainsi que finalement on finit par flotter dans la gloire du plein air. Vous voyez que très rapidement d'ailleurs, on passe de l'attention à la contemplation.
Alors oui, parlez-nous de la contemplation, parce que quelle différence entre les deux ?
Alors, il y a certains tableaux qui va vous... Le Manet fonctionne avec une multitude de stimuli, de détails visuels qui relancent l'attention. Ça va être très différent d'un tableau abstrait, comme par exemple les Roscoe, où là, tout de suite, vous plongez en immersion dans des bains de couleurs. Vous êtes saisi par un éblouissement coloré, qui va être relancé à chaque bouffée visuelle, un peu à la manière des gongs qui sont utilisés dans les méditations orientales. Hein, on pourrait dire que les grands Roscoe, avec leurs plages de couleurs, ça, ce sont des gongs visuels. Alors, la contemplation, ça renvoie à temple. Et Arras parlait du templum de la peinture, c'est transposable à la sculpture, à la musique. Et à l'intérieur de ce templum, c'est un espace à part, en fait, où vous pouvez comprendre comment la moindre chose est liée au tout. C'est cette expérience-là que va procurer le beau. C'est cette expérience vécue de cette connaissance. Avec, vous savez ce que disait Plotin, chaque âme devient ce qu'elle regarde. Alors, la contemplation du beau ne requiert pas, comme le sublime, l'extinction de soi dans un plus grand que soi. Le beau, c'est différent. Hein. Le beau, c'est l'avènement d'une intimité avec ce qui est admiré, mais sans mortelle fusion.
Et est-ce que ça ouvre la porte aux voies spirituelles du beau?
Absolument. Alors, on peut en dégager quelques-unes très rapidement. Par exemple, vous prenez les nymphéas de Monet. La beauté impressionniste est un éloge de l'eau, de l'air, de la lumière. Et ça permet aux occidentaux, comme aux orientaux, aux croyants, comme aux gens qui ne sont pas croyants, de se retrouver dans une délectation commune qui ne renvoie pas à une beauté divine hors du monde qu'on pourrait qualifier de transcendante. Les nymphéas, c'est une intensification de l'immanence du monde. Donc, les nymphéas peuvent provoquer ce sentiment océanique où le spectateur se sent délesté des limites du temps, de l'espace, mais sans abstorsion ni dissolution dramatique. L'œuvre, elle vous procure l'expérience rare d'être heureusement située dans de l'insituable, on pourrait dire ça comme ça. Donc la beauté de l'immanence est une sorte de plus petit commun dénominateur, très consensuel, qui n'exclut pas la spiritualité chrétienne d'ailleurs, parce que la spiritualité chrétienne, elle va croiser la beauté transcendante avec la beauté de l'immanence, elle peut croiser les deux. Dans la vision chrétienne, le beau est libre de se mouvoir en tous sens.
Il n'y a pas de séparation absolue.
Non, alors ça dépend, on va le voir entre les deux types de chrétienté, mais historiquement, il y a des voies particulières qui sont liées à la spiritualité du beau et qui là sont liées à la transcendance cette fois, et bien sûr la voie platonicienne. Hein, vous savez que pour Platon, le beau élève l'homme vers les idées, alors Pinacle, il y a le bien qui est décrit comme une sorte de soleil qui éclaire les autres idées, mais c'est par le beau que débute l'ascèse vers les idées. Et dans le banquet, on a tout ce chemin ascensionnel, c'est-à-dire le beau est l'objet d'un éros qui naît de l'amour du corps sensible de l'aimer, et puis après ça s'étend à tous les autres corps également beaux, puis après on passe aux belles actions, puis après on passe aux belles sciences, jusqu'à atteindre cette beauté éternelle, voilà, qui ne connaît ni naissance, ni mort, et qui jamais ne change. Enfin, là, on a un beau qui plane dans le ciel des idées, qui évidemment n'est contemplé que par la pensée. Et donc, chez Platon, si le beau est inscrit dans le sensible, c'est pour nous faire signe de dépasser ce sensible. D'où son mépris pour l'art, qui risque de nous ramener vers le sensible. C'est toute l'ambiguïté qu'aura Platon vis-à-vis de l'art. Hein,
bon. Alors, que pensent les néoplatoniciens? Parce que c'est pas tout à fait pareil.
Ah, c'est pas tout à fait pareil. Plotin, c'est le premier occidental à penser l'art consacré au beau, lui. C'est ça qui est la grande nouveauté. Et en plus, il va faire ce que Platon ne faisait pas. Il assemble le beau, le vrai et le bien en une unité qui est supérieure à ses distinctions, qu'il va appeler l'un. Et pour Plotin, l'art peut nous aider à réintégrer l'un. Vous savez que le mot extase est inventé par Plotin pour qualifier cette sortie de soi et le passage, alors toujours pareil, hein, au terme d'une ascension de l'âme, à cet état de stabilité où l'âme contemple le beau, alors sans fatigue ni satiété. Et Plotin a cette phrase magnifique, hein, « être beau pour voir le beau et revenir à l'un ». Mais alors, l'un plotinien, il n'est pas créateur. Hein, c'est le monde émane de lui, j'allais dire comme la cascade du rocher. Plotin dit « en une procession éternelle, descendante, nécessaire mais non voulue ». Autrement dit, c'est du divin, mais du divin complètement impersonnel. Hein.
Ça va quand même inspirer toute la Renaissance.
Oui, mais par le biais de quelqu'un d'autre qui est le pseudo de Denis, l'Aéropagite. L'identité est controversée, c'est probablement un moine chrétien, en tout cas c'est quelqu'un qui est teinté justement de néoplatonisme. Alors lui, ce qui est amusant, c'est qu'il n'analyse pas le beau artistique, mais il va quand même marquer l'art chrétien, parce qu'il va faire de la lumière l'analogue de la parfaite beauté divine. Et ça, cette idée que la lumière c'est Dieu, en gros, ça sera repris plus tard par Hugues de Saint-Victor, qui est moins connu que son ami l'abbé Suger, qui va reconstruire la puissante abbaye de Saint-Denis vers 1135, en innovant avec ce qui va devenir l'architecture gothique, et qui met justement en œuvre cette apologie de la lumière. C'est ça le gothique. Hein. Ce sont des murs de plus en plus hauts, percés de vastes fenêtres, sertis d'immenses vitraux. Et à cette source néo-platonicienne, évidemment, va se conjuguer un autre éloge de la lumière, mais qui vient de la Bible, où la lumière aussi est liée au divin, mais en plus avec la Jérusalem céleste qui est décrite au livre de l'Apocalypse. Alors on dit qu'elle avait l'éclat d'une pierre précieuse, que ses soubassements étaient diaprés de pierres précieuses, enfin ça revient sans arrêt. Donc en fait, les cathédrales, ce sont des anticipations de la Jérusalem céleste. D'ailleurs, elles pointent vers le ciel des flèches, des clochetons, des pinacles. C'est comme une petite ville. Et les vitraux sont les équivalents de la pierre précieuse, des pierres précieuses qui sont décrites par l'Apocalypse. Et vous avez même une analogie avec la spiritualité personnelle, c'est-à-dire que le croyant doit se laisser traverser par la lumière divine, comme les vitraux, pour que Dieu resplendisse à travers lui. C'est vraiment une voie spirituelle de beauté.
Et alors, il y en a deux dans le christianisme.
Il y a deux voies, effectivement. Il y a deux esthétiques différentes, très nettes, entre l'Église latine et l'Église orthodoxe. Alors, il y a quand même une base commune. Hein, c'est Dieu et beauté absolue. Tout ce qui est beau l'est par participation et analogie avec le divin. Et donc, il y a cette idée que par la beauté du créé, on peut remonter vers le créateur. Mais après, il y aura deux options différentes. La première, c'est l'Église orthodoxe qui va choisir l'icône Et vous aurez l'Église latine qui va choisir l'image. C'est très différent. L'icône est régie par des canons, c'est-à-dire que tel personnage, il a telle couleur, il fait tel geste. Enfin, l'inventivité laissée à l'artiste est assez restreinte. Mais du coup, l'icône, elle est beaucoup plus sûre théologiquement, parce qu'elle est beaucoup plus cadrée, si vous voulez. Elle est plus fédérative aussi. Il faut solliciter la mémoire.
Et intemporelle.
Il faut solliciter la mémoire pour reconnaître un modèle de sainteté. Bon, la Trinité de Roublev, par exemple, qui est à la galerie Tretiakov, c'est une réussite extraordinaire. Mais l'ampleur de cette réussite va se figer en prototype, si vous voulez, qui va répéter sans fin. Donc, on arrive au fait qu'une icône pas très folichonne, mais qui respecte, plastiquement, je dirais, mais qui respecte les canons, qui est bénie, eh bien, elle va avoir la même valeur spirituelle que celle absolument géniale de Roublev. Donc, l'icône, elle évolue très peu, comme vous dites, elle est intemporelle. Mais grâce à elle, le prototype céleste envoie ses énergies au regardeur. Ce que l'image ne fait pas vraiment. L'image ne véhicule pas de la sorte une telle puissance sacrée.
C'est pas le même sacré, oui.
Oui, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus libre, d'ailleurs. L'Église latine n'a jamais fixé précisément la manière de peindre un saint, une scène particulière.
Un petit peu quand même de la Réforme.
Il y a des coutumes qui sont... Bon. Mais l'image, elle est beaucoup plus inventive, elle est beaucoup plus risquée aussi, elle est beaucoup plus fragile. Ça n'est pas pour autant qu'elle est profane. Par exemple, vous prenez le repas de paysan de Louis le Nain au Louvre. Mmh. Vous avez trois figures principales à tabler, un petit peu comme chez Roublev, mais il y a une harmonie de couleurs terreuses, il y a une pesanteur des corps, il y a une densité humaine émotive, vous avez les enfants qui vous regardent, par exemple. Tout semble opposer les paysans de Le Nain à cette légèreté irisée des anges de Roublev. Et pourtant, Le Nain peint une œuvre spirituelle où le pain et le vin partagés avec un va-nu-pied sont des rappels de l'Eucharistie. Et les peintres le savaient. Par exemple, Lebrun, le premier peintre de Louis XIV, il revendique, dit-il, la théologie muette des peintres qui font connaître les mystères les plus cachés de notre religion.
Donc, les plus intimes.
Aussi. C'est-à-dire que l'image, elle part de l'ici-bas pour remonter vers Dieu, et l'icône, elle fait exactement le contraire. Donc, ce sont deux systèmes iconographiques complémentaires. L'image donne plutôt une beauté d'incarnation et l'icône, une beauté de transfiguration. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas d'ombre dans les icônes. Hein, on est déjà dans la lumière divine incréée.
Et Christine, dans la peinture moderne, vous continuez et vous parlez de Cézanne.
Oui, Cézanne, que je présente peut-être sous un jour inhabituel pour beaucoup de lecteurs.
Oui, parce que en fait, c'est très pudique tout ce qui se sait sur
Cézanne. Bah oui, le père de l'art moderne, on ne dit pas qu'il était catho.
Il était catho. Et fils de banquier, en plus.
Oui, aussi, mais il allait à la messe. Là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'aspect banquier, c'est l'aspect spirituel.
Les deux ont été maudits, quand même.
Il allait à la messe et en plus, il ne travaillait pas le dimanche. Pour aggraver son cas, alors cette fois du côté des catholiques, il disait des horreurs sur son curé qui jouait faux à l'orgue. Pour Cézanne, jouer faux à l'orgue, c'est il souffre, lui, il supporte pas. Bon. Or, il a une expérience spirituelle par la peinture qui a été effectivement un peu occultée. Je dirais même qu'il était un peu allumé. Je vais vous citer une phrase de Cézanne, vous allez comprendre tout de suite. « Il y a devant nous un être de lumière et d'amour, l'univers vacillant. L'hésitation des choses. Je serai leur Olympe, je serai leur Dieu. L'idéal au ciel s'épousera en moi. Les couleurs, écoutez un peu, sont la chair éclatante des idées de Dieu. » Fin de citation.
Où l'avez-vous trouvé parce que...
Vous le verrez dans le livre, il y a un certain nombre de lettres de Cézanne, de correspondances qui peuvent être absolument citées à l'appui de ce fait. En fait, la montagne Sainte-Victoire, c'est son Sinaï. Il se voit en Moïse de la peinture moderne, hein, on pourrait presque dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il râle beaucoup. Il n'est pas content de ce qu'il fait, parce qu'évidemment, il a une telle ambition que...
Et puis, donc, il n'est pas d'une grande habileté en peinture aussi. Il en est très conscient et ça le fait beaucoup souffrir.
C'est un laborieux, oui. Donc, en résumé, on pourrait dire, on joue un peu sur les mots, qu'il existe une « religion » entre guillemets du beau, mais qu'elle est très débonnaire. Elle demande juste d'admettre la possibilité d'un infini, d'un absolu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi un transcendantal, hein, le bon, le bien. Il y a beaucoup d'agnostiques, il y a beaucoup d'athées qui croient fermement en la justice, en la vérité. Donc, quelle que soit l'échelle spirituelle que vous voulez emprunter, la beauté nécessite simplement qu'on se verticalise un petit peu, parce que sinon, évidemment, on ne dépasse pas les horizons charmants du décoratif.
Vous finissez votre livre par une question très actuelle. La beauté sauvera-t-elle le monde ?
Ah oui, ça c'est tiré de Dostoïevski, de l'idiot de Dostoïevski. Alors je ne vais pas le développer, mais Dostoïevski ne vise pas l'esthétisme, mais la spiritualité. En revanche, la réflexion de Dostoïevski trouve une acuité aujourd'hui avec les activistes écologistes qui opposent beauté artistique et défense de la nature, hein, qui s'introduisent dans les musées pour attaquer les œuvres à coups de soupe. Là encore, c'est pas trop grave, mais souvent c'est même avec des marteaux contre les vitres de protection, pour alerter sur la menace climatique. Alors, il faudrait quand même rappeler à ces jeunes amnésiques que la première réserve naturelle, c'est en France que ça s'est passé, c'est bien avant ce qui se passera aux États-Unis, etc., et que c'est dû au milieu artistique et littéraire autour d'un peintre de Barbizon qui s'appelle Théodore Rousseau. Et le brave Théodore Rousseau, il peignait dans la forêt de Barbizon qui était absolument décimée par les bûcherons parce qu'il y a la révolution industrielle et on a besoin de bois. Et il va remuer ciel et terre pour obtenir qu'une partie de la forêt de Fontainebleau soit épargnée. C'est la première réserve naturelle en 1861 qui s'appelle réserve artistique.
Hein, et il y a une ligne de chemin de fer qui permet à tous les Parisiens d'aller pique-niquer là-bas.
En plus, mmh. Oui, bah c'est une des premières forêts qui aura même un manuel touristique pour la découvrir, etc.
Alors, comment vous allez sauver le monde avec la beauté ?
Alors, je ne sais pas si la beauté pourra sauver le monde, mais peut-être qu'elle le pourrait par la communion dans l'admiration. Parce que la beauté, par l'admiration qu'elle suscite, nous grandit et nous stimule. C'est quand même le meilleur de la civilisation, dont notre histoire de l'art, qui est quand même assez riche et tumultueuse, eh bien, ce n'est pas dû d'abord à l'envie, au ressentiment ou au profit, même ouais. Si ça existe. Il ne faut pas être naïf. Hein, bon. Le nerf moteur, c'était quand même l'admiration.
Oui, le point commun.
Voilà. Or, admirer le beau, ce n'est pas subir une grandeur qui nous dépasse et qui nous écrase. Ça, c'est le sublime. Hein. Il ne faut jamais confondre le beau et le sublime. C'est pour ça que j'ai écrit, entre autres, « Géographie de la beauté ». Le dernier problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés sont des sociétés de ressentiment. Or, c'est l'admiration qui est un levier qui peut soulever le monde. Le ressentiment, ça le détruit.
Alors, le prochain livre, ce sera quoi ?
Alors, le prochain livre, ce sera le 20 octobre prochain. Ça s'intitulera « Les beautés singulières ». Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est toutes les beautés qui fâchent. Toutes celles qui sont problématiques, donc la beauté des nus, la beauté de la croix, la beauté du mal, la beauté du diable. Parce qu'en fait, tous ces bienfaits qu'on vient de détailler très très brièvement, pour certains, ce ne sont que des leurres. Hein, le beau aurait séduit les foules, il aurait été le valet du pouvoir civil, religieux, il serait complice d'oppression, d'aliénation, puis il y a le tabou d'Auschwitz aussi. Enfin, il y aura plein d'accusations à déminer, donc ça, ce sera... le 20 octobre
donc,
prochain.
On vous attend au prochain, évidemment.
Avec plaisir.
Christine, mais aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'utilité de
les bienfaits de du beau. Les bienfaits du beau.
Et les bienfaits du beau, mais notre ami Bertrand de Sainte-Marie va nous parler d'un art utile. Mais d'abord, le bobino.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Bertrand de Sainte-Marie, vous êtes conservateur au musée de la Marine, après avoir été conservateur d'ailleurs au musée d'Orsay, à Versailles.
Non. Au sein du département des Hauts-de-Seine, oui. Au château de Sceaux, au musée Albert Kahn, sur le projet du musée du Grand Siècle. J'ai travaillé effectivement au château de Versailles pendant plusieurs années. Et pas en tant que conservateur à ce moment-là.
Et donc, vous aimez en plus la mer, je crois.
Oui, bien sûr.
Donc, vous avez eu cette chance
d'être conservateur au musée de la Marine et que vous ayez eu la possibilité de remplir un rêve, c'est de parler de faire une exposition qui n'a pas encore eu lieu, qui est une nouveauté absolue. C'est une exposition sur la Marine et les peintres. Parce qu'il y a toute une histoire, et c'est cette histoire que vous nous faites parcourir dans une exposition qui a lieu en ce moment, et qui est sous-titrée « Quatre siècles d'art et de pouvoir », qui se termine le 2 août,
ah, il faut se dépêcher,
et qu'il faut aller voir absolument, et qui a lieu en même temps que le Salon de la Marine. Donc en fait, on fait un voyage de Richelieu à aujourd'hui, sans interruption, de peintres qui peignent la Marine. Alors, c'est assez curieux parce que nous parlions de l'utilité de l'art et qu'il y a une utilité des peintres à être embauchés par la Marine parce que ce sont des... Ils servent la Marine, ils ont des commandes de la Marine. Ils ont même, plus tard, un statut de peintre de la Marine, etc. Donc, c'est toute une histoire et que vous allez nous raconter. D'ailleurs, comment est venue l'idée, comment vous êtes embarqué dans cette histoire maritime de la peinture ?
Merci beaucoup, madame, de me recevoir. En effet, c'est une formidable aventure et j'étais très honoré de pouvoir œuvrer à ce projet avec la confiance de Thierry Gosseron, le directeur du Musée national de la Marine, et de Marion Vessière, directrice adjointe du musée. Pour justement proposer dans le cadre des 400 ans de la Marine, c'est sous l'égide de cet anniversaire qui est d'une grande importance compte tenu, je crois, de l'attachement des Français à leur Marine, d'abord, de cette tendance et de volontiers au sein même de la Marine, d'un attachement à l'histoire, à son histoire, à ses traditions. Comme au sein des armées d'ailleurs, et dans ce sens de commémorer en effet cette rencontre entre l'art et la navigation, l'art de naviguer, et plus encore que ça, même si la navigation remonte à la nuit des temps, bien d'une navigation qui s'organise, qui s'orchestre en vue de protéger les côtes d'un pays, de s'inscrire bien sûr dans la défense d'une légitimité souveraine, laquelle va évoluer bien sûr au fil du temps. Elle va être monarchique, elle va être révolutionnaire, elle va être impériale, et puis à nouveau monarchique, et puis nationale. Et au fil du temps, on voit se renouveler justement ce regard, dans le sillage de ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, ce renouvellement du beau, mais aussi des intentions fonctionnelles, politiques, vont permettre de construire des corpus que je trouve, moi, fascinants. Donc, dépêchez-vous d'aller au Musée national de la Marine pour ouvrir les yeux sur ce patrimoine. C'est d'abord le patrimoine des Français, bien sûr.
Et on est les premiers pays à avoir des peintres de la Marine ?
Alors, on ne peut pas juste simplifier en parlant des peintres de la Marine, c'est ce qui est un peu délicat, mais sans sombrer dans des débats trop spécialisés sur la question. Il y a toutes sortes de dénominations, en fait, sur ces peintres, et on les synthétise aujourd'hui pour ne parler d'ailleurs, et c'est une grande part de notre sujet, bien sûr, des peintres officiels de la Marine aujourd'hui, même si cette appellation a évolué dans le temps, même si au fond, même aujourd'hui, dans les décrets concernés, il s'agit des peintres peintre de l'armée, spécialité marine, plus précisément. Mais c'est vrai que ce vocable général de peintre officiel de la marine a fini par représenter, par dénommer tous ces peintres-là, alors qu'il faut faire certaines distinctions dans le temps. Dans les années 20, d'ailleurs, on les appelle les peintres du département de la marine. Et cette dénomination, d'ailleurs, nous présentons une liste dans l'exposition, dans la partie du salon. Et dans cette liste, assortie d'une chronologie, nous remontons bien sûr à 1830. Voilà, donc il y a quand même un repère, 1830, on est au tout début de la monarchie de Juillet, du roi Louis-Philippe, juste après la révolution de 1830 qui a renversé Charles X. Et c'est à ce moment-là que deux peintres, Théodore Gudin et Louis-Philippe Crépin, sont inscrits à l'annuaire de la marine, hein, qui est évidemment très caractéristique, voilà, et qui permet d'inscrire les noms des officiers, de toute personne, voilà, qui est directement rattachée à cette administration. Par la suite, on va parler de peintres attachés au ministère de la marine. Mmh. Ouais, on ne parle pas de peintre officiel de la marine en tant que tel, ou alors le terme officiel, voilà, c'est l'épithète qui va qualifier ces peintres. Et ce que j'ai souhaité développer dans cette exposition, c'est justement de montrer, en remontant dans le cadre de ces 400 ans au début du XVIIe siècle, eh bien, la grande variété de ces parcours, des dénominations aussi et des situations diverses et variées. Mais elles sont d'ailleurs innombrables, y compris par exemple au XVIIe siècle. Il y a encore beaucoup de recherches qui sont à faire. Cette exposition est une clé d'entrée. C'est pas du tout un point définitif, évidemment. On n'a jamais cessé d'explorer dans l'art, vous le savez, toutes les possibilités, toutes les ressources, les archives qui permettent de mieux comprendre le recrutement des artistes, leur manière de travailler, la commande, la réception, la diffusion de leurs œuvres. C'est évidemment très, très important. Et j'essaie, dans cette exposition, justement, dans cette grande fresque, peinte, de revenir donc aux sources de cette marine de guerre française qui est unifiée en 1626.
Et ça commence par deux tableaux de Philippe de Champaigne, ni plus ni moins.
Oui, deux grands portraits. Ouais. Philippe de Champaigne n'étant pas du tout un peintre, comme on dit, de marine.
Non.
Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer dans l'exposition, élargir le propos, de voir, de contempler, vous parliez de cela, mais aussi d'analyser, de réfléchir, de scruter le détail, de comparer également, pas d'histoire de l'art sans comparaison notamment, et de faire travailler sa mémoire aussi, sa sensibilité, son cœur, ses yeux, voilà. Et pour Philippe de Champaigne, comme d'autres peintres qui ne sont pas, je dirais, dans leur carrière, à travers leur travail, des peintres exclusivement de peinture de marine, mais qui ont tous contribué, finalement, je les mobilise tous, pour saisir des travaux de leur part qui ont représenté des acteurs ou des scènes fondamentaux dans cette grande histoire de la marine de France. Voilà, on est dans l'histoire de France, on est, et de facto, dans l'histoire européenne et du monde, puisque bien sûr, les interactions sont là, les liens, les enjeux historiques, politiques sont là. Et il est vrai que on croise dans cette exposition des genres différents, les genres qui sont ces constructions historiques que l'art, évidemment, et que la théorie de l'art, que les théories de l'art ont établi peu à peu pour établir des catégories, vous l'évoquiez tout à l'heure d'ailleurs, pour nous permettre de mieux comprendre des thèmes ou des sujets et d'enregistrer visuellement un peu des références et de se rattacher. Et l'art s'émancipe et se libère aussi à travers le discours savant qu'il veut énoncer. Alors c'est évidemment notable à partir de la Grande Renaissance, de la Haute Renaissance, et puis elle se développe en France, bien sûr, avec la création, la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et là, il y a quand même, je dirais, une coïncidence du temps, un resserrement chronologique qui est tout à fait intéressant et notable, puisque cette exposition qui commence en 1626, quand Louis XIII octroie à Richelieu cette charge par l'édit de Saint-Germain de grand maître, chef et surintendant général de la navigation et du commerce de France, l'un ne va pas sans l'autre. On est donc en 1626 et cette mesure va se déployer à travers d'autres mesures, la suppression de l'amirauté de France en 1627, la création des corps de garde de marine, il y a un grand nombre en 1634, il y a d'autres dispositions que prend Richelieu, il y a évidemment le grand galop d'essai, si je puis dire, historique et militaire de la guerre de La Rochelle, du siège de La Rochelle et de la citadelle de l'île de Ré.
Les premiers tableaux que l'on voit ce sont les premiers tableaux que l'on voit en entrant.
Exactement. Mais la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est 1648. Mm-hmm. Hein, donc, une vingtaine d'années après, mm-hmm. les artistes entendent s'unir, nous connaissons cette histoire, s'unir les Testelins, Charles Lebrun, bien sûr, qui a un rôle, que vous citiez tout à l'heure, qui a un rôle éminent, qui est revenu de Rome, et qui vont rechercher la protection royale. Alors, à l'époque, on est sous la Régence, et la Régence a bien d'Anne d'Autriche, aidée du cardinal Mazarin, et le pouvoir a bien besoin de soutien parmi les réseaux d'artistes à ce moment-là. Donc, c'est vrai que il y a un moment, en ce premier XVIIe siècle, où une prise de conscience très forte, qui est pas née d'hier à l'époque, hein, qui se construit peu à peu, déjà des conseillers de François Ier savaient que le maritime, le naval, était important. Hein. Et bien cette conscience navale, les amiraux qui ont précédé Richelieu aussi en ont conscience. Le duc de Montmorency, qui était l'amiral de France, était un grand amiral. Hein. Mm-hmm. On l'a oublié, et évidemment, c'est un peu les grands noms qui étaient présents lors des guerres de religion, d'ailleurs, les Guises, Montmorency, les Coligny, les Rohan, et des gouverneurs aussi sur le littoral. Il y a tout ce monde féodal maritime. Il s'agit maintenant d'édifier pour le roi une marine unifiée, centralisée, permanente.
Une administration, une institution.
Voilà, entretenue par le roi.
C'est plus les corsaires.
C'est la marine du roi. Il va y avoir des corsaires par la suite. Hein. On va d'ailleurs changer la monarchie. Bah, évidemment, parfois changer son fusil d'épaule et l'entretien de cette marine de guerre qui s'avère quand même extrêmement coûteux. C'est ce qu'il y a de plus coûteux à la fin du règne de Louis XIV. On va lui préférer la guerre de course, justement, et notamment de certains corsaires. En tout cas, toute l'épopée commence là. Et bien sûr, il s'agit de croiser le sujet historique, éminemment historique, et les influences et les courants artistiques de l'époque. Ils vont tous contribuer, quand je dis tous, c'est-à-dire bien sûr la sensibilité et les tendances que travaillent les peintres nordiques, les Flamands et bien sûr les Néerlandais et les Hollandais.
Grands connaisseurs de la mer et des bateaux.
Voilà, qui vivent de la mer, qui triomphent sur les mers, qui ont une avancée considérable. Il y a donc des enjeux géopolitiques mondiaux qui sont fort importants à cette époque. La concurrence entre les États, on a parlé des Hollandais, bien sûr les Anglais, les Espagnols, Portugais, ces grandes conquêtes à travers les mers, justement, ont bouleversé dès la fin du XVe siècle tout l'équilibre européen vers de nouveaux enjeux. Et c'est aussi, bien sûr, la rivalité France-Espagne et les enjeux méditerranéens avec l'Empire ottoman et la flotte ottomane et les barbaresques et la stabilité de cette région et le contrôle de la mer Méditerranée, du moins dans sa partie occidentale, défi que la France va quand même parvenir à remporter, puisque on peut dire que la dynastie des Bourbons va contrôler toute la partie occidentale de la Méditerranée.
Et mettre de l'ordre dans ces... Il y avait des attaques des barbaresques.
Sur les côtes.
Voilà, donc il s'agissait justement à l'époque de constituer cette marine efficace, efficiente, centralisée. Bien sûr qu'on emprunte aussi aux Hollandais des types de bateaux au tout début. Il y a toujours une marine en France. Nous avons eu au musée un colloque, la marine avant la marine. Encore une fois, les modalités étaient tout autres. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, il s'agit pour la marine royale de l'époque et le pouvoir de l'époque de construire donc, cette flotte. Mais c'est vrai qu'on s'inspire des Suédois pour aller vite. On s'inspire des Suédois, on s'inspire des Hollandais. On pense aux Génois également. Et en peinture, c'est la même chose. Les voyages de ces flamingis, hein, de ces peintres nordiques, on confond d'ailleurs parfois hollandais, flamands, leur trajectoire qui passe par la France, qui passe par la Provence,
ils prennent des
passe
noms français.
Par Gênes, oui, passe par Gênes, par Rome évidemment, et des Lorrains également qui, au contact de bon nombre de ces artistes, présentent tout cela. Donc nos artistes français comme Claude Vignon, hein, donc cette toile de Vignon, nous souhaitons qu'un mécénat nous aide à la restaurer, mais qui est une toile fondamentale qui montre, on va dire, une peinture de bataille navale, un portrait de navire et tout un discours mythologique à la gloire des Razilly, de Claude de Razilly et de son épouse, qui sont montrés en Amphitrite et Neptune dans l'obéissance à ces codes visuels, à ces codes allégoriques et mythologiques. On parle de la fable, hein, qui sont des modalités de médiation savante qui nous relient bien sûr à l'antique. C'est tout le bagage, tout le corpus intellectuel est cultivé, qui permet la délectation. La délectation et la contemplation aussi. Il y a de multiples parties de cette contemplation. Vous l'avez parfaitement énoncé tout à l'heure dans votre passionnant dialogue, mesdames. Mais il y a aussi cette part également dans ces plaisirs cultivés que l'honnête homme veut développer, que le savant de la Renaissance veut préserver, protéger et découvrir aussi cette splendeur dans la réflexion, mais aussi dans la contemplation visuelle. Et donc là, cette délectation, elle est fort importante. On le voit dans les correspondances, d'ailleurs, des artistes de l'époque, des commanditaires. Hein, c'est très prégnant, c'est très concret. C'est pas seulement des beaux mots que nous utilisons. Ces mots ont une chair, ces mots ont une âme, ces mots se concrétisent de façon matérielle. Et c'est vrai que c'est l'époque aussi, dans l'époque là, qui nous occupe de ce début. Vous voyez, ce début est riche, donc on en parle beaucoup ici, de la mise en place aussi, voilà, de nouvelles manières de travailler dans ces nouvelles administrations. La première intendance de marine, c'est à Toulon que ça se passe, et le pouvoir monarchique a fermement l'intention de structurer, de rebâtir
et de mettre en gloire
des arsenaux, voilà, exactement, et de faire, comme une expression consacrée dans des échanges de lettres entre Colbert et ses correspondants, de faire éclater la magnificence du roi sur les mers, à bord des vaisseaux, dans les vaisseaux, dans les grandes salles de conseil intérieures, et puis à l'extérieur aussi. Vous avez même d'ailleurs certains grands artistes qui acceptent d'être peintres en bâtiment, pour le dire de façon triviale, voyez, c'est-à-dire de peinture extérieure, je dirais plus rudimentaire. On parle d'entrepreneurs aussi, il y a toutes sortes il y a un foisonnement en effet de statues au début du règne de Louis XIV, car c'est évidemment Colbert et Louis XIV qui vont magnifier, qui vont augmenter considérablement l'impulsion donnée par Louis XIII et Richelieu, mais ils n'ont pas eu le temps évidemment de développer encore davantage cela. Mazarin a voulu le faire, mais la Fronde évidemment est venue perturber l'essor de cette marine. Et cette charge de grand maître, d'ailleurs, a pu échoir un neveu de Richelieu, puis à la reine Anne d'Autriche. La reine Anne d'Autriche a été à un moment donné, pendant quelques années, grand maître de la navigation et surintendante générale de la navigation de France. C'est ensuite la famille de Vendôme. Hein, à cette époque-là, il faut toujours comprendre les fonctions, les missions, mais également les familles et les enjeux familiaux dans cette ancienne France. Et les Vendôme, c'est César de Vendôme, qui est un bâtard d'Henri IV, qui est un fils naturel d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, un grand comploteur, un intrépide, puis son fils, qui sera son survivancier, le duc de Beaufort.
Donc il y a un magnifique portrait.
Qui est présent, voilà, dans l'exposition. Donc un cousin de Louis XIV, tout simplement, hein, et un neveu de Louis XIII.
À côté, il y a un autre portrait complètement kitsch, tout à fait portrait de
Rangeloire. Oui, qui met en scène le chevalier Paul. Ouais. C'est vraiment une trouvaille, ouais, grâce au marché de l'art, qui a révélé ce portrait il y a moins d'un an. Et le musée de la Marine, j'étais très heureux justement de pouvoir acquérir avec le musée de la Marine ce grand portrait d'apparat qui a été exécuté à la fin de la vie de ce chevalier Paul. Et ce chevalier Paul, il parle à beaucoup de marins, à beaucoup d'officiers de marine, un certain nombre de bâtiments de la Marine nationale portent son nom. Et donc tout d'un coup, on voit cette effigie arriver. Parfois, on a de vagues, les historiens de l'art le savent bien, de vagues photocopies, des photos noires et blancs, difficiles, peut-être une gravure, peut-être voilà, qui évoque, ou un dessin évanescent qui évoque tel portrait. On sait qu'il existe, il a disparu, il est perdu. Là, nous n'avions rien de tel, et apparaît cette image incroyable. De cette grande figure qui désigne une marine, une peinture de marine, où on voit bien une poupe d'une galère avec le grand pavillon blanc et ce très riche habit à la mode parisienne, à la mode française, paré de rubans bleus, alors que l'armure...
Il a un visage extrêmement... je dirais marin, austère, on le voit en bataille, et là, il est habillé...
comme un homme de cour.
Comme un homme de cour, mais je dirais plus.
Oui, il a vraiment voulu magnifier, il est dans l'ostentation du service du roi, c'est aussi toute une mentalité qui est révélée là, ainsi que la manière du peintre, qui est excellente, qui est un peintre anonyme, autre peintre convoqué pour cette exposition, sans doute ces peintres dans le foyer provençal, qui est un foyer très important, grâce aux trois lieux, il n'y a pas que des peintres là, mais les trois lieux emblématiques de la création artistique au XVIIe siècle, qui sont Marseille, Aix-en-Provence et Toulon, où on dénomme d'ailleurs en totalité Magali Théron, qui est une historienne de l'art, très spécialiste de ces questions, a dénombré plus de 300, près de 390 peintres sur cette période-là pour ces villes. Et donc, ce sont des foyers artistiques très importants. Et les arsenaux seront, avec cette tradition notamment du dessin, seront des lieux emblématiques très importants de recrutement de sculpteurs et de peintres. Là, je parle évidemment des peintres, c'est notre sujet, c'est le regard que nous portons, et des peintres. Dans cette Provence, d'ailleurs, on parle de l'entretien royal, les peintres entretenus, c'est une dénomination. Vous voyez, nous parlions des peintres de la marine. Quand je prononçais ces différentes appellations que l'on retrouve dans les sources, dans les archives, eh bien, on parle de peintres entretenu, et on peut dire d'ailleurs que le premier peintre payé par la marine, c'est Jean-Baptiste Delarose, dont on a quelques œuvres dans l'exposition, qui est un artiste majeur.
Il veut dire pensionné, pour ainsi dire.
C'est pas une pension. Non, une pension, à la limite, dans la rigueur du vocabulaire qui, c'est vrai, très fastidieux, de l'administration royale et de la monarchie, ou de la cour. Ce n'est pas une pension. Là, c'est vraiment un traitement qui est assuré par la marine pour cet artiste qui travaille au sein des espaces de l'arsenal, de l'atelier de l'arsenal. Et donc, à partir de 1667, le peintre entretenu, on parle de ses maestrances également, et ce sont des foyers très importants, avec d'ailleurs on a dénombré, je crois, près de 10%, moins de 10% de peintres d'origine étrangère, bien sûr des Flamands, des Italiens, des Flamands, des Hollandais, voilà, nos fameux Nordiques que nous retrouvons. J'ai pas pu développer ça d'ailleurs dans l'exposition, il fallait se concentrer sur notre grande épopée historique et on manque toujours de place pour la démonstration du propos. On veut tellement montrer d'œuvres, être commissaire d'exposition, c'est une question de choix, de sacrifice, de dilemme impossible. Mais bien sûr, toute la maturation de cette peinture de marine. Elle n'est pas la seule, je l'ai dit, il y a la peinture mythologique, il y a la grande peinture d'histoire, mais aussi le portrait.
Le paysage.
Le paysage qui est d'où s'extrait, si je puis dire, d'où dépend la peinture de marine, puisqu'il faut maîtriser les éléments, il faut maîtriser l'élément liquide, cette masse dans laquelle se reflète le ciel. Donc il faut maîtriser le ciel, il faut maîtriser...
Les atmosphères.
La restitution d'un monde, de ce monde vivant, qui est évidemment matériel dans cette réalité pondéreuse, concrète. Et il est vrai que c'est l'essor, c'est le triomphe du paysage à l'époque, qui conquiert évidemment à la suite des Flamands et des Italiens au XVIe siècle de nouvelles modalités.
Et on a un Claude, on a le Lorrain qui trône dans votre exposition.
Oui,
vous ne l'avez pas
oui.
oublié.
Un petit mais costaud, le Lorrain prêté par le musée du Louvre. On remercie nos collègues du musée du Louvre de nous avoir permis de montrer cet étonnant voyage, transplantation du Capitole romain, donc d'une Rome moderne à l'époque. Il y a souvent une représentation de la Rome antique et une représentation de la Rome moderne. Hein, c'est un peu les deux, ça fait partie de ces codes de représentation que beaucoup d'artistes exploitent alors. Et là, c'est la Rome, une partie de la Rome moderne, alors que le Capitole est encore en construction à ce moment-là. Hein, tous les palais attenants ne sont pas là. Mais le Capitole est au bord de la mer. Voilà, il est au bord de la mer, donc on voit, il est vraiment sur son
port.
Alors on sait que la mer n'est pas loin de Rome, mais là, il y a un raccourci absolument époustouflant que nous offre Claude Lorrain, ce bien connu génie de la peinture, génie par cette technique éblouissante, cette manière de structurer toute la composition de sa toile par la lumière, par cette manière de travailler les glacis, de restituer avec une grande méticulosité. On le voit d'ailleurs pour les navires. Les navires, c'est là tout un thème d'analyse, de compréhension, bien sûr, pour notre exposition, mais pour le sujet plus général d'une peinture qui représente la navigation, qui représente la marine, d'acuité, de transcription littérale ou pas, ou au contraire fantaisiste et plus imaginative, de ce qu'est la réalité d'un navire, d'un bateau, qui est une machine, qui est un artefact, qui obéit bien sûr à des règles techniques, à des...
Il y a beaucoup de précision.
Voilà, et ça fait partie aussi ça fait partie des analyses de l'architecture navale vue par les peintres. Mmh. Ça, c'est un sujet dont nous parlerons lors de la journée d'études que nous organiserons tout début octobre pour traiter de cela. Comment les peintres représentent aussi cela. Il est hors de question d'oublier ce sujet. C'est tout le propos, d'ailleurs, de cette exposition. C'est commémorer les 400 ans de la marine, justement, cet engagement en mer de la France et de la marine qui est à l'action, justement, pour... Sur des siècles, voilà. Et de la même manière, parce que ici, en l'occurrence, c'est à travers la peinture que l'on appréhende cela, et bien d'en décortiquer quand même les codes, les codes visuels. Il y a évidemment une hiérarchie entre les artistes, ceux qui sont très mimétiques de cela, ceux qui le veulent, ceux qui pourraient l'être mais qui ne le sont pas.
Par exemple, Ziem, vous avez un grand Ziem qui met toute sa fantaisie dans un sujet maritime officiel.
Oui, exactement. Ouais. Là, on traverse les siècles. Au tout début du XXe siècle, Félix Ziem a déjà une carrière largement bien accomplie. On connaît ses vues de Venise qui parfois sont nombreuses à se présenter dans les salles de vente. Mais Ziem, c'est aussi quelqu'un qui aime... faire vibrer sa touche,
il y a beaucoup de fantaisie, on ne le cadre pas.
Voilà, il a dépassé Barbizon qu'il a côtoyé pour bien connaître les impressionnistes, et là il est mobilisé par la marine et par le pouvoir pour représenter l'escadre italienne et française à Toulon, Et on peut par là rappeler à tous nos chers visiteurs et qu'un grand nombre de peintres ont quand même été peintres de la marine, et on l'avait oublié, comme Paul Signac, comme Albert Marquet, comme Félix Zizième, on vient de le dire. Alors certes, il n'y a pas de modèle, en fait, dans ces nominations. Je dirais que certains artistes ont été reconnus par le pouvoir relativement et par les instances de la marine relativement tôt. D'autres, au contraire, c'est au fait, à la fin de leur carrière, qu'ils vont être reconnus comme tels et devenir peintres officiels de la marine. Et voilà, il n'y a pas vraiment, je trouve, de modèle. Il est riche de voir...
une adaptation permanente.
Une adaptation.
Alors justement, dans le 19e siècle, vous montrez tous les peintres romantiques qui montrent la mer de façon romantique.
Oui, 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 qui surtout, ils montrent la mer, mais ils montrent aussi l'histoire. Le romantisme, évidemment, prend beaucoup l'histoire comme sujet, et ce 19e siècle qui s'enivre d'histoire pour mieux se comprendre, pour dépasser d'ailleurs
la révolution,
les clivages politiques, l'instabilité des gouvernements. Et cette histoire, elle est explorée. C'est ce qu'a voulu d'ailleurs Louis-Philippe en restaurant, en réaménageant le château de Versailles pour en faire une demeure à toutes les gloires de la France, aménagée avec ses fameuses galeries historiques. Il y aura même dans l'histoire de ce musée des salles de marine qui vont d'ailleurs être très modifiées. Donc ces espaces ont leur propre histoire. Mais j'ai voulu dans l'exposition, effectivement, quand je montre le portrait du vice-amiral de Tourville, une grande figure du XVIIe siècle de la marine de Louis XIV, Eugène Delacroix le représente. Alors de manière là beaucoup plus, je dirais, hiératique, hein, on est, il y a pas dans cette toile une sorte de désordre de représentation. Là, c'est Tourville qui est magnifié dans la perception par la monarchie de Juillet, par le 19e siècle, de ce qu'est cet important personnage, aussi personnage de cour. Le romantisme, peut-être on le voit dans la marine du fond, à l'arrière-plan,
oui, où
le ciel est volontiers est obscurci plutôt, et on reconnaît, il y a ce détail du romantisme sombre qu'on voit plutôt à travers cette très belle esquisse, la quatrième du radeau de la Méduse, que le musée des Beaux-Arts d'Angers nous a fait la joie de nous prêter. Évidemment, le chef-d'œuvre de Géricault qui bouleverse tout le monde lors du salon de 1819 nous rappelle un drame d'abord au sein de la marine elle-même, et puis un drame humain et des enjeux de représentation qui sont absolument nouveaux. Là, on est vraiment projeté. Alors, il y a des peintures de bataille navale qui nous ont déjà projeté dans cette histoire en pleine mer, mais là, vraiment, on a une situation dramatique.
Il y a toutes sortes d'échos anthropologiques. Reprise par la presse avec un scandale et tout ce qui est...
Oui, oui, voilà, avec beaucoup d'anecdotes.
Mais parlons maintenant un peu du XXe siècle. Donc, dans les années 20, c'est là où s'organise un petit peu le statut des peintres de la marine.
Oui, en effet, c'est un statut à partir de la monarchie de Juillet. Leur nombre va progressivement, pas trop vite d'abord, se déployer. Et je dirais quand même à l'aune aussi, avant de parler des années 20, permettez-moi quand même de parler des grands bouleversements aussi et des transformations de la marine elle-même, qui va se moderniser. Et ce que j'ai aussi voulu montrer de fait dans l'exposition, c'est que les peintres n'ont pas arrêté de représenter la marine et bien sûr ces grands vaisseaux, ces grands bâtiments, avec la disparition de la marine à voile.
Son passage de la marine en bois à la marine en fer.
Oui, voilà, avec des situations mixtes aussi, des situations composites, des vaisseaux composites où on trouve toujours de la mâture, des gréements, mais avec du blindage, avec c'est toutes les grandes...
Les couleurs changent.
Voilà, c'est évidemment la vapeur. C'est l'introduction de la vapeur, de l'hélice, des cuirassés qui vont modifier profondément, bien sûr, le profil et les capacités justement d'intervention de la marine française au fil de l'histoire. Mais tout cela va quand même, je trouve, créer des occasions pour les artistes de représenter
On a parfois l'impression de
navires.
Représentation cinématographique. C'est plus du tout le côté très...
Oui, c'est plus la bataille classique.
C'est l'élan, c'est le mouvement, et avec une sorte de réalisme qui n'existait pas avant. Vous avez de très beaux tableaux montrant ce...
Oui, oui, oui. Il y a cette progression. C'est vrai que le romantisme n'étouffe pas du tout. Il est acclimaté par un grand peintre de la marine comme Théodore Gudin, et qui, on peut penser aussi à l'influence anglaise et Turner, bien sûr, mais où la représentation de la bataille se matine légèrement de la bataille navale, mais il y a aussi la fête navale, il y a aussi les parades d'escadre, il ne faut pas oublier ces genres-là, et les portraits de navires. Donc c'est ce qu'on découvre dans l'exposition. Il faudra étayer tout ça pour ne pas réduire tout ce répertoire à la seule bataille navale, même si, bien sûr, la bataille navale, elle a des enjeux humains, politiques, de représentation, de diffusion qui sont très importants. Donc c'est tout cela est vraiment étudié de près. Vous avez tout l'héritage de Vernet, on n'a pas parlé au XVIIIe siècle. Joseph Vernet, c'est vraiment un grand génie qui va représenter ses vues des ports de France, et tout le XIXe siècle continue à s'inspirer de la précision, de sa technique picturale vraiment éblouissante, et les romantiques ensuite vont s'emparer de cela, quelqu'un comme Isabey va s'en éloigner avec une touche de plus en plus, d'abord très rubénienne et puis de plus en plus voluptueuse, donc le détail parfois très précis d'un Théodore Gudin, Isabey et Gudin sont très proches, ils vont se séparer dans leur manière de traiter la chose maritime, mais bien sûr que ces représentations de la marine, elles traversent, elles épousent aussi tous les bouleversements et les évolutions de la peinture en elle-même, et c'est pour cela qu'on peut y trouver aussi un Courbet comme un Manet qui était profondément marin dans l'âme, et qui a voulu un temps passer le concours de la marine, et qui, et ces transformations notamment du courant réaliste, va éminemment bouleverser toute l'esthétique
et
les peintres de la marine que la marine va aller chercher au sein du salon, au sein des moments que rythme la vie artistique. On voit cette ouverture de la marine à ces nouvelles sensibilités, et je trouve une ouverture tout à fait judicieuse en nommant Paul Signac. En 1915, la marine montre vraiment des infléchissements par rapport, en effet, à un dépassement, non pas du tout un reniement, mais un dépassement d'abord de ce qu'on peut appeler cette peinture de bataille classique, où on voit l'ensemble de l'affrontement sous nos yeux, avec des équilibres de composition, de motifs, avec des codes qui sont observés d'harmonie, pour ensuite une peinture militaire qui va s'attacher à la figure du marin, pour permettre au public de se rapprocher dans ces élans patriotiques et ces enjeux patriotiques entre la guerre de 1870 et même le Second Empire et la Première Guerre mondiale, eh bien, la figure du marin devient première, plus importante qu'une représentation synthétique ou générale, et en effet ces effets de cadrage, bien sûr rivalité de la peinture avec la photographie, le cinéma qui apparaît dès 1895, donc là on voit bien des panoramas, des plongées ou des contre-plongées qui sont saisissantes chez certains, le grand format aussi qui exploite cela en vue rapprochée, alors que la grande peinture de bataille classique qu'on voit beaucoup,
c'est une scène.
Au musée à l'hôtel de la marine, qui n'est pas le musée de la marine, mais qui était l'hôtel du ministère de la marine, qui était le lieu où on montrait cette peinture aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc à Versailles, où les commandes se sont succédées, y compris sous le Second Empire, et avec toujours l'arrivée de nouvelles peintures, et à l'hôtel de la marine, au ministère de la marine, qui était un enjeu, bien sûr, de communication, de diffusion, pour montrer aux diplomates étrangers la puissance de la France, de sa flotte, et bien sûr, sur tous les territoires conquis par la France, avec tous les enjeux coloniaux que cela comporte. Donc c'est vrai que cette grande variété de peintres, avec des parcours différents, à la fin du XIXe siècle, beaucoup issus d'ailleurs des ateliers académiques, et ensuite ce renouvellement très, très, très important. Et c'est vrai que ce foisonnement artistique, il est considérable, il est passionnant.
Et alors justement, on termine cette exposition par une salle où vous montrez les peintres que vous avez choisis dans le salon pour leur donner des prix et pour, comment dire, pour faire ressortir leur talent particulier.
Oui, oui, parce que le Salon de la Marine, qui a été créé dans les années 40, mais qui a été, à l'époque, a répondu certainement à des enjeux, à ceux qui avaient cours pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une longue tradition, tout simplement, du salon artistique. Mmh. Et dès les années 1900, vous avez une communauté de peintres attachés à la marine, à représenter des sujets maritimes, bien sûr, toutes les marines, mais aussi très attachés à la marine de France, hein, à la marine militaire, hein, et bien sûr à la mer. Car comme dit Théodore Gudin, pour bien représenter des sujets de marine, il faut savoir naviguer, ou il faut avoir navigué. Voilà. Et c'est vrai que cet enjeu, cette problématique de l'engagement à bord, de l'embarquement de l'artiste, au XXe siècle, c'est, même si ça existait avant, hein, un Garneret avait été corsaire, avait été emprisonné dans les pontons anglais. Hein, vous avez un certain nombre de peintres qui sont... Vernet lui-même était à bord. Eh bien, cet engagement à bord, il devient très important. Il est pratiqué avec zèle par les peintres de la marine aujourd'hui. Et parmi ces nouveaux candidats, en effet, un concours a été ouvert. Nous avons eu beaucoup de dossiers, près de 300 dossiers qui montrent quand l'intérêt aujourd'hui dans un cadre de création. Et le Salon de la Marine permet d'offrir cela. Et c'est vrai que ces deux moments sont exposés, cette grande exposition on va dire historique et scientifique, et qui se poursuit avec les travaux des peintres officiels de la marine actuels, puis de ces candidats que nous avons retenus et que la marine a retenus, et qui permet de nommer de nouveaux peintres officiels de la marine. Et ça se fera officiellement même ce soir au musée de la marine.
Et il faut dire que tous les courants sont admis. Il n'y a pas un seul courant artistique qui est représenté. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas le cas du ministère de la Culture. Donc, il y a plus d'ouverture que dans les choix. Vous acceptez les divers courants et c'est le sujet qui compte.
Oui, je crois qu'il y a une ouverture, oui, qui est nécessaire et qui est partagée et qui donne justement de très beaux résultats.
Et cet engouement. Merci, cher.
Un grand merci, madame.
Bertrand de Sainte-Marie, de Sainte-Marie,
oui,
de
merci.
Nous avoir fait ce très très beau parcours. Et nous allons nous précipiter avant le 4 août.
Le 2 août.
Le 2 août.
Voilà.
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 Merci.
Venez, car c'est en effet inédit, c'est une exposition inédite, en effet, sur un tel sujet.
Merci infiniment.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Aude de Kéros, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 2 juillet 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.